Depuis les studios de Radio Galaxy et par téléphone, nous recevons Jacques Sirat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, sous forme de conférence projection, vous allez nous présenter votre parcours à vélo autour du monde, qui aura lieu donc le mercredi, on le rappelle, le 11 décembre à 20h à Carbonne, à la salle du cinéma de Bois de Castres. Peut-on revenir, avant de parler de tout ça, sur votre parcours de vie qui vous a amené à cet exploit, en fait ?
J'ai toujours du mal à parler d'exploit, ce n'est pas un exploit, c'est juste un choix de vie. Au départ, j'étais fonctionnaire, j'ai travaillé à la poste pendant 9 ans, et puis un jour, je suis parti pour un premier voyage qui a été un tour d'Europe en courant, 18 000 km dans 32 pays, sans assistance, juste avec un petit sac à dos. Et au retour, après un an et demi de parcours, j'avais usé 26 paires de chaussures, je devais réintégrer mon emploi. J'y suis revenu un jour pour déposer une lettre de démission et repartir à vélo. Et donc depuis, en fait, j'ai passé 24 ans sur les routes. De temps en temps, il y avait quelques passages en France, tous les 3 ans, 5 ans. La première fois, c'était le premier tour du monde, a duré 7 ans. Et donc à chaque fois, je constate mon incapacité à rester, mais et surtout l'attrait de l'ailleurs, cette vie de mouvement, de nomade. Alors sur la projection du Bois de Castres, je vais juste parler de 4 ans de voyage qui ont précédé un grand accident que j'ai eu en Afrique le 1er février 2015.
Et pour nous, pour les auditeurs, vous pouvez nous développer un petit peu sur cet accident, par exemple ?
Oui, alors ce sera détaillé au moment de la projection, mais en fait c'est une chute idiote au Kenya. Je voulais aller passer du temps dans les centres d'entraînement de coureurs kenyans, sur les hauts plateaux. Puis en fait, le deuxième matin, dans une descente, j'ai entendu un éclat de rire extraordinaire, comme il y en a beaucoup là-bas, en Afrique. Et c'était un jeune gamin qui me faisait bonjour, je le salue. Et au moment où j'ai baissé mon bras, j'ai revu un gros ralentisseur sur la route, j'ai pas pu freiner, je suis parti en l'air, je suis tombé sur la tête. Et on m'a transporté dans un hôpital à 80 km de là, à l'arrière d'un pick-up, bien secoué. Puis en fait, ma rate avait éclaté. La salle d'opération était en travaux. On m'a opéré sur une table poussiéreuse dans des conditions assez difficiles. Et j'ai passé 16 jours très très mal là-bas. Puis j'ai dû rentrer et arrêter pendant quelque temps mon voyage.
Bon, tout ça, bien sûr, vous le développerez davantage sur la conférence qui aura mercredi 11 décembre à 20h à Carbonne, à la salle du cinéma de Bois de Castres. Comment vous faisiez pour vivre lors de tous ces voyages ?
Alors ça, c'est toujours la question importante. J'attends d'ailleurs, dans les conférences, j'attends qu'on me pose cette question. Et si on ne me la pose pas, j'y réponds, parce que sais que c'est une question que se posent tous les gens, ce qui est normal. Alors en fait, pendant que je travaillais, j'avais restauré une vieille maison qui est louée. Donc ça me fait un revenu régulier. Ensuite, j'écris une page par mois sur le Petit Bleu d'Agen, un journal de la Genève. Depuis 24 ans, en fait, j'ai ma chronique mensuelle, donc ça m'apporte un petit financement aussi. Mais le problème, c'est plus le retour. D'ailleurs, après mon grave accident, je suis reparti un an et demi. Alors j'appréhendais un peu parce que physiquement, j'avais perdu énormément. Mais j'ai été rassuré par rapport à mon côté physique. Rapidement, ma condition physique est revenue, mon envie, mon goût de voyage était toujours là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de nouveau. Lorsque je suis reparti après cet accident, les premiers jours, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Et la route, depuis 24 ans, la route est devenue mon chez-moi. Au point qu'il y a un an à peu près, j'étais au Panama, j'ai décidé d'arrêter cette vie de cyclonomade, comme je dis, en pensant me réinsérer, me sédentariser. Il faut constater que depuis un an, je n'y parviens pas. Et en fait, je repars juste il y a une heure, je viens de prendre mon billet d'avion pour la Colombie. Et je repars le 1er février 2020 pour quelques années de plus. Alors je vais débuter à vélo en Colombie, puis essayer de retraverser tous les pays d'Amérique du Sud que je connais déjà. Puis ensuite, ce sera sans doute l'Asie, l'Afrique, et ainsi de suite pour quelques années de plus.
D'accord, donc en fait, votre bureau, c'est la route.
Oui, alors j'ai pas de bureau, hein. C'est vraiment une vie de liberté. Ce qui est fabuleux, c'est que je pars le matin sans savoir où je vais dormir le soir et je trouve ça apaisant et c'est un plus, un pas de plus vers ce côté liberté parce que dans notre vie de tous les jours ici, on a tout réglé, minuté, on a un calendrier bien établi, Et parfois, on se laisse prendre au jeu dans le voyage, justement, à se fixer des étapes ou autres. Et ça, j'en veux pas, parce que je veux être ouvert à toutes les possibilités. Dès que j'ai un coup de cœur, un paysage extraordinaire devant moi, ben, je peux m'arrêter et le savourer. Si quelqu'un m'invite ou boire un café, discuter un moment, ben, j'ai pas d'obligation à repartir. Je peux rester et savourer ces moments-là. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire, parce que justement, je n'ai pas de temps. Quand je vais repartir, là, le 1er février, ben, le prochain passage en France sera peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, aucune idée. Et puis, ce n'est pas très grave. Je vis sur la route.
Rien ne vaut l'instant présent, comme on dit, effectivement.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, alors c'est une chose qui a changé au fil de ces années, parce que lorsque j'ai débuté le voyage, il n'y avait pas Internet. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Maintenant, on a Internet, donc j'ai quand même plus d'informations. Et je suis certainement moins dans le moment présent que je ne l'étais à l'époque. Parce qu'à l'époque, ben, lorsque j'arrivais à un poste frontière, je ne savais pas si je pourrais passer ce poste frontière. Maintenant, je sais par avance si on peut passer tel ou tel poste frontière, justement avec Internet. Par contre, je n'ai jamais de téléphone en voyage et je n'en veux surtout pas parce que c'est des contraintes supplémentaires. Il faut charger les batteries déjà, donc voilà, je veux éviter ça. Et justement, avec le téléphone, j'ai rencontré des voyageurs qui organisent parfois leur parcours en fonction des endroits où ils peuvent recharger leur matériel. Et je trouve ça un dommage parce qu'on n'est plus maître de son voyage et je veux l'être pleinement et me détacher au maximum de choses accessoires. Donc j'ai pas de téléphone. Et en plus, je passe beaucoup de temps. Alors ça, c'est aussi des choses qui ont évolué tout au long de ces années. Je savoure de plus en plus les grands espaces, les déserts, les hauts plateaux du Tadjikistan, par exemple, où on voit très peu de monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a changé chez moi. Au début, je pense que je passais beaucoup plus de temps dans les zones peuplées. Maintenant, j'aspire à beaucoup plus de calme et je savoure ce calme.
Peut-être que vous finirez ermite au Tibet, je sais pas, en train de méditer, pourquoi pas.
Oh, je pense pas. Alors, j'ai une façon de méditer, entre guillemets. J'utilise souvent, les gens utilisent ce terme pour moi, parce que ma méditation, en fait, c'est de savourer mon bivouac le soir. J'avais rencontré, un peu avant mon arrivée, un cycliste français qui descendait vers le Maroc à vélo. Et il me disait, mais moi le soir, j'aime être un peu dans l'urgence, camper lorsque la nuit est tombée pour pas être vu. Et moi, c'est tout à fait l'inverse. J'aime bien m'arrêter en fin d'après-midi parce que le bivouac est un vrai bonheur. Je collecte un peu de bois, je fais mon petit feu, ma popote, je commence à écrire mon journal, puis j'observe le coucher de soleil. Et ensuite, je vais dans ma toile de tente lire un peu. Et chaque étape là, de ce processus, c'est des choses que je trouve très apaisantes. Et c'est certainement une façon de méditer un peu, mais en tout cas, ça m'apporte un équilibre qui m'est important.
C'est une façon, oui, de méditer, ça on peut le dire, effectivement. Vous serez donc mercredi 11 décembre à 20h à Carbonne, à la salle du cinéma du Bois de Castres.
Oui, alors en fait, les projections... Je dis quelques mots d'introduction, ensuite j'ai un diaporama numérisé qui dure un peu plus de 50 minutes, et ensuite je reviens sur des moments forts du voyage et je réponds bien sûr à toutes les questions qui me seront posées. Comme je disais, le thème c'est les rayons de la liberté, ça couvre une période de 4 années qui ont précédé donc l'accident dont je parlais tout à l'heure, et qui correspondent au livre que j'ai publié, les rayons de la liberté justement. Ensuite, là maintenant, ce que je fais, parce qu'il est très difficile de trouver des financements, et j'ai publié un petit calendrier sur le thème des enfants du monde, un calendrier de bureau, et donc je vends ça également, parce que ça m'apportera un peu de financement, parce que j'ai pas de téléphone, mais j'ai besoin d'un ordinateur portable, par exemple, dans le voyage, de pas très grand, avec pas mal de mémoire, pour stocker mes photos et mes textes, donc ça c'est important pour moi. Et puis je dois renouveler tout mon matériel photo, et ça aussi c'est des budgets, donc c'est un peu compliqué. Je viens de publier ce calendrier qui me financera une partie du matériel.
Au niveau d'ailleurs d'appareils photo, vous avez quoi, vous, en voyage?
Ah ben, je fonctionne avec un réflexe, parce que le réflexe, c'est plus lourd, c'est sûr, mais l'avantage, c'est que les batteries tiennent beaucoup plus longtemps. Et donc, j'ai deux batteries en permanence avec mon réflexe Nikon, mais les deux batteries me permettent de tenir des semaines, quoi. Donc, voilà, j'ai pas à passer dans des zones pour recharger le matériel et tout ça. Et l'ordinateur, c'est pareil. Je ne m'en sers que quand je passe dans une ville ou autre. Je ne m'en sers pas sous la toile de tente. J'essaie de me déconnecter un peu, même si j'ai un blog que je tiens actualisé, mais ça je le fais quand je passe dans une ville où il y a une bibliothèque ou un cybercafé. Je mets quelques lignes pour tenir informé de mon avancée, mais rapidement après je reprends la route. Et les gens qui me suivent savent que je ne réponds pas aux messages. Alors c'est pas par manque de respect, c'est juste que j'en reçois pas mal parfois, ça me touche toujours. Mais si je passe mon temps à répondre aux messages, je ne vis plus le voyage. Et je ne veux pas aller à l'autre bout du monde pour être en constante connexion avec la France. Je trouve que c'est quelque chose qui me marque souvent. Ça, je crois qu'on rêve de voyage, on rêve d'être à l'autre bout du monde. Et quand on y est, on communique sans arrêt avec le chez-soi. Et finalement, on n'arrive pas à vivre le moment présent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'essayer au maximum de vivre le moment présent, vivre, de ressentir les émotions intenses que procure la route.
Oui, tout à fait. Ce que vous dites là, c'est d'une logique. Et effectivement, avec notre monde d'aujourd'hui, de connexion, c'est quelque chose qu'on a du mal à vivre, effectivement. Oui, tout à fait.
Oui, alors après, c'est vrai que la connexion favorise des contacts et c'est quand même intéressant. Hein. Je rejette pas tout en bloc, c'est juste que je veux pas me laisser contrôler par tous ces éléments. Parce que par contre, le côté positif, c'est que les premières années, je suis passé dans des pays où je notais des adresses, des contacts de gens, et j'avais été pris par la saison des pluies au Vietnam, j'avais perdu plein d'adresses. Et quelques années plus tard, justement, avec Internet, des gens ont repris contact, ont retrouvé ma trace et ont repris contact avec moi. Et donc j'ai des contacts dans quelques endroits du monde, comme ça, avec des personnes qui m'ont retrouvé grâce à Internet. Donc ça a été le bon côté.
Ce qu'on dit surtout, c'est de faire les choses en conscience, c'est-à-dire effectivement pas s'y refuser, mais pas non plus devenir esclave de ça, de faire les choses en conscience, voilà, pour apprécier l'instant présent.
Puis je crois qu'il y a une autre chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un choix de vie pour moi. J'ai passé 24 ans sur la route, ça va durer encore quelques années. Donc il est évident que c'est pas aller un petit projet de quelques mois pour venir faire un film et tout ça. Je rencontre des voyageurs qui partent des fois quelques semaines ou quelques mois, et avec l'objectif de faire un film. Donc évidemment, là, ils sont constamment avec le matériel. Je comprends. Après, ils font rêver beaucoup de gens au retour également. Mais moi, c'est pas ma démarche, quoi. Je veux pas passer mon temps à gérer du matériel. Je suis plus dans l'humain. Ce qui me fascine toujours dans les voyages, c'est justement les rencontres que je peux faire des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ouvrent leurs portes, qui m'offrent un sourire. Et à chaque fois, je prends une belle leçon, parce qu'avant de voyager, je ne sais pas si j'aurais été capable d'héberger comme ça quelqu'un, un inconnu qui passe. Cette chose-là m'impressionne toujours, même maintenant, après 24 ans, je suis toujours ébloui par les gens qui m'accueillent.
Oui, je comprends. Là, c'est la magie du voyage, peut-être.
Oui, exactement.
Je rappelle, ce mercredi 11 décembre à 20h, conférence projection donc, de Jacques Sirat à Carbone, salle du cinéma de Bois de Castres. Voilà, merci exactement. Jacques, et on peut vous souhaiter bon voyage.
Merci beaucoup, merci à vous.